Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, en direct, pour une nouvelle émission de Semillas Latinas, l'émission dédiée à la célébration des cultures d'Amérique latine.
Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Et ce mois-ci, direction la Bolivie. Pays unique, singulier, façonné depuis des milliers d'années par la diversité de ses nombreux peuples autochtones, la Bolivie est une terre qui rayonne entre l'Amazonie qui dessine l'horizon, les Andes majestueuses et les villes qui défient le ciel et les limites de la condition humaine. Car c'est en Bolivie que se trouve notamment la capitale la plus haute du monde, La Paz, dressée fièrement à une altitude impressionnante de 3600 mètres. Mais la Bolivie est surtout un pays multilinguiste. La constitution bolivienne ne reconnaît pas moins de 37 langues officielles et plus de 36 peuples autochtones différents. Il n'en faut pas plus pour que cette majorité indienne fût représentée à la tête du pays par l'un des siens, j'ai nommé Evo Morales, propulsé au pouvoir en 2005 par un mouvement populaire et paysan, le MAS, mouvement au socialisme. Après avoir été réélu en 2019 pour un deuxième mandat contesté par l'opposition, Evo Morales a choisi de démissionner pour éviter une escalade de violence. Aujourd'hui, il entend se représenter pour un troisième mandat en août 2025, mais la justice l'interdit. Alors il tente, en vain avec l'appui de son parti, de faire céder les tribunaux. Lundi 13 janvier, la Marche de la Vie, organisée par les partisans de l'ancien président, a atteint La Paz, la capitale bolivienne. La Bolivie devient alors le théâtre d'un combat politique entre deux anciens alliés, l'actuel et l'ancien président, Luis Arce et Evo Morales. Mais aujourd'hui, une opposition qui représente aussi les intérêts de la droite traditionnelle. Au cœur de cette confrontation, la question de l'exploitation des ressources naturelles. La Bolivie est en effet un pays riche en matières premières, un véritable Eldorado, mais dont l'économie est depuis toujours extrêmement dépendante de l'extraction et de l'exportation de ses richesses. Autre problème, et non des moindres, les risques environnementaux et sanitaires. Même si le gouvernement bolivien a reconnu en 2010 des droits à la nature sous l'impulsion des Amérindiens, Morales n'a cessé de promulguer des idéologies nationalistes, voyant davantage la Bolivie comme un capitalisme andino-amazonien, menaçant ainsi la protection de sa propre terre. Mais cela ne date pas depuis la découverte de l'Amérique. Et oui, les conquistadors espagnols d'hier deviennent les firmes nationales d'aujourd'hui. Mais la pression est plus forte ces derniers temps. Par exemple, en 2000, la guerre de l'eau à Cochabamba, histoire racontée dans le merveilleux film d'Isiar Boyan, También la lluvia, même la pluie, sorti en 2010, qui raconte l'histoire de réalisateurs venus tourner en Bolivie un film sur la colonisation par les conquistadors, mépris dans les manifestations de la guerre de l'eau. Quand l'histoire fait alors écho à la réalité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux peuples autochtones et à leur combat. Et pour ouvrir cette émission, Paloma et Astré vont nous éclairer sur l'histoire politique de ce pays. Puis nous retrouverons Sylvie et Manon pour une interview avec Élise Gadea, spécialiste de la justice indigène, et Jordi Blo Ansari, spécialisé sur le Buen Vivir, pour une interview croisée. En deuxième partie, nous aurons une chronique d'Astré et Paloma sur les mythiques Cholitas boliviennes qui grimpent les sommets, et puis nous terminerons sur la chronique d'Anaël qui nous parlera du carnaval d'Oruro. Bonsoir Paloma et Astré, vous allez ce soir nous éclairer sur l'histoire politique de ce pays.
Oui, aujourd'hui on parle des peuples autochtones, mais en fait, de qui parle-t-on exactement ? On utilise souvent des termes autochtones, natifs, indiens, aborigènes comme des synonymes, mais chacun a un contexte bien précis.
Alors oui, ces mots, ils évoquent l'autochtonie. Alors l'autochtonie, c'est l'idée d'être issu d'un territoire sans y être arrivé par migration. Mais l'usage de ces termes que tu viens de citer, Paloma, il varie selon les régions. En Australie, on parle d'aborigènes. Au Canada, on préfère le terme autochtone. Aux États-Unis, c'est les natifs américains ou les Amérindiens. Et en Amérique latine, on parle d'indigènes, los indígenas.
Et c'est vrai qu'en français, le mot indigène, il peut sembler un petit peu gênant à cause de son usage colonial. Historiquement, c'est un terme qui a servi à justifier une hiérarchie raciale qui reléguait ces populations en marge du pouvoir et des décisions politiques.
Et oui, après les indépendances en Amérique latine, les indigènes ont été exclus des nouveaux États-nations qui venaient d'être créés. En fait, sous la colonisation, la société, elle était divisée en catégories très strictes. Il y avait les Andins, les Métis, les Criollos. Mais après, ce sont surtout les élites mestizas, donc les élites bourgeoises, qui ont pris le pouvoir, laissant les populations indigènes à la marge.
Et face à cette exclusion, des mouvements de revendication émergeaient, surtout en Bolivie et en Équateur. L'objectif, c'était de reprendre le contrôle de leur identité, de valoriser leur culture et d'accéder au pouvoir. On va alors assister à une ethnicisation de la politique avec des leaders indigènes qui mobilisent un électorat qui a longtemps été ignoré.
Un exemple marquant, c'est Evo Morales, qui avait déjà été mentionné lors de l'édito. Il est issu d'une famille Aymara de l'altiplano bolivien. Il commence en fait par militer dans des syndicats de cultivateurs de coca avant de devenir le leader du Movimiento al Socialismo, MAS. Après plusieurs tentatives, il est élu président en 2005, devenant ainsi le premier président indigène de Bolivie.
Pour la patria et pour le peuple bolivien, sí, juro.
Et dès son investiture, il a mis en avant son héritage amérindien avec une cérémonie traditionnelle sur des ruines pré-Inca et entouré de représentants indigènes. Son mandat a marqué un tournant avec des politiques pour réduire les inégalités et pour reconnaître pleinement les droits des peuples autochtones.
Vengo a expresar sobre todo ese pensamiento anticolonial de los pueblos que luchan por la igualdad y por la justicia.
L'une des grandes réformes, c'est la création de l'État plurinational en 2009. La Bolivie ne se définit alors plus comme un État uninational, mais va reconnaître officiellement la diversité de ses peuples avec un pluralisme politique, économique, juridique et linguistique.
Concrètement, cette nouvelle constitution mentionne 36 peuples indigènes et leur accorde des droits spécifiques, notamment sur la gestion de leur territoire et leur participation aux décisions politiques.
Et c'est une avancée majeure, même si elle ne règle pas tout. Evo Morales reste une figure qui est controversée, notamment pour ses affaires de corruption dans lesquelles il est ciblé, et aussi pour ses liens avec d'autres dirigeants de la gauche latino-américaine comme Hugo Chavez.
Et oui, le projet s'inscrit dans l'idéal bolivarien d'unité latino-américaine dont on avait déjà parlé lors de l'épisode précédent sur le Venezuela. Mais au-delà de Morales, la reconnaissance des populations indigènes reste un combat entre lutte sociale et changement politique profond.
Et aujourd'hui encore, malgré les avancées législatives, de nombreuses communautés indigènes continuent de revendiquer leurs droits, la protection de leurs terres et leur autonomie politique.
Et ce combat est loin d'être terminé. On aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission avec d'autres chroniques et analyses plus profondes.
Merci beaucoup. Maintenant, on passe à la suite avec une petite pause musicale.
Oh, una flor en mi vida, era la luz de mi alma, era la rosa más tierna, camamí punatada. Era una flor en mi vida, era la luz de mi alma, era la rosa más tierna, camamí punatada. Solo y triste la recuerdo, sufro y lloro su partida, y mirando las estrellas, pido a Dios me la devuelva. Era la rosa más tierna, o camamí punatada. Solo y triste la recuerdo, sufro y lloro su partida, y mirando las estrellas, pido a Dios me la devuelva. Era la rosa más tierna, o camamí punatada.
Et c'était Uka Mampi de Munataxa de Los Arcas.
C'est Millas Latinas, une émission Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Nous passons maintenant à l'interview. Sylvie, Manon, qui recevons-nous ce soir ?
Donc nous recevons ce soir deux invités au micro de C'est Millas Latinas. Élise Gadea, bonsoir et bienvenue. Vous êtes socio-anthropologue à l'Université de Toulouse Jean Jaurès et autrice d'une thèse sur la justice indigène et le pluralisme juridique en Bolivie. Et à vos côtés au studio de Radio Campus Paris, Jordi Blanc-Sari, bonsoir et bienvenue également. Vous êtes chercheuse associée au CREDA, le Centre de recherche et de documentation sur les Amériques, et maîtresse de conférences à l'Université Panthéon-Sorbonne. Vous êtes autrice d'une thèse portant sur les inégalités socio-environnementales en Bolivie et sur l'appropriation sociale et politique du concept du « vivir bien » réalisé à partir d'une anthropologie participative par l'image. Après l'Équateur, le gouvernement bolivien est le second État à inscrire le concept indigène du « vivir bien » dans sa constitution en 2009. Pour commencer, Jordi Blanc-Sari, pouvez-vous nous rappeler ce que signifie la notion de « buen vivir » ou « vivir bien » ? Pourquoi a-t-elle une signification particulière pour les peuples andins, notamment ceux de Bolivie ?
Bon, tout d'abord, bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, le concept du « buen vivir » ou du « vivir bien » dépend en fait du lieu... dénonciation, parce qu'en Équateur, on parle plus de buen vivir et en Bolivie de vivir bien. Il s'agit en fait à peu près de la même philosophie d'origine indigène qu'on va exporter sur la scène politique. Donc le concept signifie vivre en harmonie entre les humains et avec la nature. Donc on voit déjà qu'on accorde une place particulière à la nature et donc aux non-humains dans ce concept-là. Donc c'est un concept qui a été inscrit dans la constitution bolivienne en 2009. À l'origine, on puise dans les cosmogonies andines avec une traduction en quechua et en aymara, suma causa et suma camania, qui en fait sont des termes qui ont une signification un petit peu plus profonde que celle que je viens de vous énoncer. Suma ou sumac, ça vient de l'adjectif pour décrire tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est joli, donc il y a une valeur morale aussi derrière, tout ce qui est précieux. Et causa ou camania, c'est un terme qui a plusieurs acceptions. À la fois, c'est la culture, donc il y a la dimension communautaire qui peut être entendue. Il y a le fait d'habiter, de vivre, et aussi donc la vie en général. Donc ce sont des concepts qui ont eu une profondeur un petit peu plus complexe. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'importation de ce concept dans la sphère politique et voir comment il a été réapproprié, réutilisé selon les acteurs. Tout à l'heure, donc, on parlait de l'origine indigène de ce concept, mais il faut bien voir que la construction de ce concept émanent de différents endroits et de plusieurs acteurs. Bien sûr, les mouvements indigènes ont participé, vous avez aussi des acteurs politiques. Et puis, il faut savoir quand même que ce concept-là est le fruit de plusieurs échanges, à la fois nord-sud, et de plusieurs représentations du monde, puisque la théologie de la libération, donc impulsée par le clergé en Bolivie, a aussi participé à façonner des épistémologies indigènes, entre guillemets. Donc voilà, faut bien comprendre que l'essor du Buen Vivir est beaucoup plus complexe que uniquement un rattachement au mouvement indigène.
Merci beaucoup pour ces réponses et avec vous ce soir également Sylvie au micro de Semillas qui accompagne Manon dans la conduite de cette interview. Est-ce que peut-être vous pourriez nous préciser quelles sont les visions de la nature et de l'environnement que le concept de Buen Vivir véhicule et aussi est-ce que ce positionnement se reflète dans les politiques socio-environnementales du gouvernement bolivien depuis 2009?
Alors, la catégorie de nature, tout à l'heure je parlais de non-humain, de nature, en fait, effectivement c'est une catégorie qui regroupe à la fois ce qu'on appelle nature en Occident, les végétaux, les animaux, mais aussi les ressources naturelles, les esprits, les ancêtres et les générations futures. Donc, dans les représentations de la nature, on a quelque chose d'un peu plus conséquent. En fait, la nature est représentée comme toutes les formes de vie qu'on définit sous le terme de Pacha. Donc, Pacha, c'est le terme andin. Pour désigner les organismes vivants, mais aussi le cycle du temps et l'espace. Donc il y a cette vision-là. Après, il y a un autre terme qui me vient en tête, c'est Pachamama, parce qu'on a souvent l'habitude de parler de cela. Alors Pachamama, c'est un terme qui représente à la fois la perception indigène ou autochtone de la nature, avec cette idée que la mama fait référence à la fois à la figure de mère nourricière et à la fois d'autorité religieuse. On a aussi des caractéristiques qui découlent du syncrétisme, de la Vierge Marie, etc. Mais en fait, la notion de Pachamama, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle a un sens politique. Donc en fait, elle s'articule à la fois à la conscience écologique, à la revendication de certaines perceptions du monde. Et en plus, elle devient un sujet de droit, puisqu'elle a été inscrite dans une loi, et donc il y a un véritable, on peut dire, droit de la nature. Après, la deuxième question que vous posez, la question de l'application de ce droit de la nature dans les politiques publiques, c'est la vraie question. Vous avez plusieurs exemples qui nous montrent les défaillances de la mise en place de ce concept, et donc de ces droits de la nature. Et en même temps, il faut bien comprendre que le Buen Vivir et l'arrivée de la Pachamama dans les textes législatifs, c'est quelque chose de relativement récent. On est à peine 15 ans après la promulgation de ces lois. Et donc, c'est des manières de penser qui sont en train de se faire, qui sont en train de se construire. Donc, il est difficile, en fait, juste 15 ans après, de voir concrètement l'application de ces idées-là dans les politiques publiques. Il y a aussi une contestation un petit peu décoloniale quand on cherche à promouvoir ces savoirs dans les scènes, dans les arènes politiques générales.
Et à ce sujet, ce fossé qui existe entre la théorie et la pratique, nombreuses sont les organisations paysannes, autochtones, les ONG de défense des droits de l'environnement, des chercheuses et des chercheuses comme Maristela Pampa, qui dénonce en fait les politiques extractives du gouvernement bolivien qui souhaite financer des politiques sociales de redistribution des richesses, à travers un modèle de développement fondé sur la surexploitation des ressources naturelles vouées à l'exportation. Comment expliquez-vous ce paradoxe?
Alors, ce paradoxe, il émane de plusieurs choses. D'une part, la dynamique politique intrinsèque à la Bolivie. Il faut savoir que ce programme, il a été impulsé par le mouvement vers le socialisme et donc avec Evo Morales au pouvoir, qui est resté 3 mandats à la présidence et qui ensuite est sorti dans des contextes un petit peu délicats. Donc je pense que dans une première phase, on peut dire que la contradiction vient du fait d'une problématique politique, d'une instabilité. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est-à-dire que la Bolivie, c'était un des pays les plus pauvres de l'Amérique latine encore récemment. Maintenant, le Venezuela prend la place, mais il n'empêche. Et donc, c'est un pays qui était dépendant des financements internationaux, qui était dépendant des projets de développement pour la mise en place des politiques publiques. Donc, c'est un pays qui, presque du jour au lendemain, cherche à s'affranchir de cette aide internationale, même si elle ne le fait pas, en tout cas dans le discours, elle cherche à proposer un nouveau modèle de développement, le paradigme du buen vivir, mais elle se voit heurtée à des contraintes économiques pour le mettre en œuvre. Et puis au-delà de ça, la Bolivie a de nombreuses ressources naturelles qui sont aussi très prisées. Et donc on voit que malgré ces réformes et ces discours politiques, l'exploitation des ressources naturelles continue et affecte parfois profondément de nombreuses zones, que ce soit pour l'exploitation du lithium, du gaz en particulier. Et donc on a un véritable ambiguïté et antagonisme entre une promesse politique qui se situe entre écologisme et extractivisme. Vous avez également le projet du TIPNIS qui avait fait couler beaucoup d'encre en 2011, le projet de construire une route au milieu de l'Amazonie sur des territoires notamment indigènes pour relier la Bolivie et le Brésil. Et donc cette lutte-là montre aussi la défaillance des projets politiques pour faire accorder l'entité bolivienne autour d'un projet écologiste, entre guillemets. Donc voilà, ce sont, je pense, les deux points pour comprendre ce paradoxe.
Et en parallèle, du coup, en 2009, donc sous la présidence d'Evo Morales, a été adoptée une nouvelle constitution, dont vous en parliez tout à l'heure, qui reconnaît notamment le pluralisme juridique. Donc dans la pratique, Élise Gadea, peut-être pour vous, qu'est-ce que cela signifie, ce pluralisme juridique, et comment s'est mis en place en Bolivie un système donc, de justice dit pluriel ?
Oui, alors c'est un système qui est relativement innovant, dans le sens où il y a très peu de pays dans le monde et même en Amérique latine qui reconnaissent, alors peut-être pas tant le système pluriel, parce que en fait, la Bolivie avait déjà plusieurs types de justice. Je pense notamment à la justice agroambientale, la justice agro-environnementale, et puis la justice militaire, qui sont aussi en fait des sous-systèmes au sein du grand système de justice. Mais la nouveauté, en tout cas effectivement en 2009, c'est bien évidemment la reconnaissance de ce qui s'est appelé la justice indigène, la justicia indígena originaria campesina, puisqu'en fait à partir de 2009 en Bolivie, la grande majorité de l'ensemble des droits, et notamment des droits constitutionnels ouverts pour les peuples indigènes, se sont appelés yoc indigena originario campesino. Donc en fait, la nouveauté, c'est vraiment de reconnaître en fait, pour les indigènes, un système de justice qui leur est consacré, le système de justice indigène, à égalité hiérarchique avec ceux de la justice qu'on a appelé depuis lors la justice ordinaria, la justice en fait que moi j'ai choisi de traduire par la justice d'État. Et donc en fait ça crée effectivement un nouveau système dans lequel en fait coexistent plusieurs types de justice, dont la justice militaire et la justice agro-environnementale, mais surtout en fait voilà la justice des indigènes versus la justice en fait des juges. Et c'est donc un système relativement inédit parce que aucun pays jusqu'alors dans le monde ne reconnaissait autant de droits pour les peuples indigènes. Dans les faits, bon, c'est très compliqué, peut-être j'aurais pas le temps de tout expliquer, mais c'est un système qui déjà en fait commence par une reconnaissance constitutionnelle, donc comme je viens de le dire, assez inédite. Mais dans l'année qui suit, en fait, en 2010, est promulguée la loi de Deslinde, la loi de délimitation juridictionnelle, qui en fait, si bien les préceptes constitutionnels avaient tendance à ouvrir et à déclarer énormément de droits finalement en termes de territoriaux, en termes de domaines de compétences pour cette justice indigène en fait. Un an plus tard, en 2010, la loi de délimitation juridictionnelle qui devait préciser justement la mise en place de cette nouvelle forme de justice à égalité hiérarchique constitutionnellement établie hein, pour les indigènes en fait, ferme pour beaucoup en fait énormément de droits qui pouvaient s'appliquer pour les peuples indigènes, notamment dans le fameux article 10 de la loi de Deslinde, dans lequel est établi et énuméré en fait un ensemble d'énormément de droits, le droit à la famille, le droit au travail, le droit, enfin, il y a toute une liste comme ça très très exhaustive d'énormément de droits, pratiquement tous les types de droits qui existent et qui du coup ne peuvent pas s'appliquer pour la justice indigène. Et la seule exception qui est reconnue, c'est dans le domaine agraire, un droit pour la répartition des terres à l'intérieur des territoires on va dire des territoires indigènes, pour pas rentrer dans les détails. Donc finalement, dès le début, en fait, l'ensemble des droits pour les peuples indigènes et pour la justice indigène, ils sont pas très très clairs. Finalement, ben la reconnaissance, les préceptes constitutionnels qui ouvrent énormément de droits sont ensuite beaucoup remis en question un an après. Et ensuite, dans la mise en place en fait de cette justice indigène, elle donne lieu finalement plus à une forme de reconnaissance, je dirais, politique que réellement à un nouveau système opérant avec un budget, avec des moyens finalement pour pouvoir assumer la justice. Et petit à petit, le vice-ministère de la justice indigène, qui donc était au sein de l'ensemble des bâtiments de la justice indigène en plein cœur de la PASS, va perdre énormément de protagonisme. Et il y a 4 ans à peu près, ce n'était plus que un vice-ministère avec, je crois qu'il y avait moins de 10 personnes qui y travaillaient. Alors que bien évidemment, l'ensemble des autres ailes en fait du ministère de la Justice avait plutôt eu tendance au contraire à grossir. Rajouter à ça le fait que la justice indigène a été entendue en fait comme une justice de juge finalement, dans le sens où tout est centré sur la figure des autoridades originarias. Et je pense que finalement, c'est faire peser sur leurs épaules beaucoup plus un rôle en fait qu'ils n'ont pas au sein des communautés, dans le sens où ce sont des autorités qui changent tous les ans, donc rotatives, qui changent tous les 1er janvier. Et puis les décisions sont beaucoup plus communautaires finalement que d'autorités, et l'autorité communautaire n'a aucun pouvoir, en tout cas n'avait pas jusqu'alors un pouvoir de soumettre et d'obliger finalement les habitants de ces territoires-là à se soumettre à une décision. Un rôle qui se rapproche beaucoup plus finalement de celui des juges. Donc finalement, pour énormément de raisons, la justice indigène va plus avoir tendance finalement à contrôler les pratiques des indigènes, notamment via le tribunal constitutionnel, qu'à améliorer finalement les pratiques d'administration de la justice pour les peuples indigènes.
D'accord. Et est-ce que du coup, même si ce n'est pas forcément opérant, en théorie, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quelles sont les principales différences entre la justice du coup, que vous appelez d'État et cette justice indigène ? Est-ce que la justice indigène constitue, en tout cas sur le papier, une alternative à une justice d'État plutôt punitive et répressive ou pas ?
Alors, plus que punitive et répressive, en fait, elle est entendue, la justice indigène, comme étant la justice des indigènes par rapport aux conflits qui peuvent émerger à l'intérieur de leur juridiction. Donc, en fait, considérant finalement qu'il y a plus une volonté en fait, de désengorger le système étatique et de permettre finalement aux habitants des territoires, des communautés rurales indigènes, et là aussi, ça limite finalement aussi la définition même des peuples indigènes à seulement les territoires en fait ruraux, en entendant les indigènes comme on les entendait à l'époque coloniale, c'est-à-dire des habitants qui ne vivent pas dans les villes. On sait que les indigènes en Amérique latine sont tout aussi urbains que ruraux. Donc ça déjà finalement c'est un problème. Mais ensuite, c'est plutôt en fait effectivement une volonté de la part de l'État, au-delà effectivement de la reconnaissance symbolique qui est très importante, hein, il faut pas l'oublier. La Bolivie est un pays dans lequel jusqu'aux années 50, par exemple, les indigènes n'avaient pas le droit de rentrer, notamment à la PASS, à la Plaza Murillo. Donc il y a en termes symboliques effectivement une reconnaissance qui est très très forte, mais c'était plus une volonté en fait de désengorger le système étatique qui est en crise et qui est particulièrement peu efficace en Bolivie, un système très corrompu, très lent, qui ne permet pas souvent d'ailleurs l'exercice de la justice, et de permettre en fait l'ensemble des conflits qui existent au sein de ces territoires-là d'être résolus en fait par les autorités communautaires, ce qui était déjà le cas avant en fait, puisque effectivement, les autorités administrées, la justice, essayer de trouver une solution à énormément de conflits qui existaient et qui existent toujours, bien évidemment, au sein de ces territoires-là. Donc, il y avait en fait une volonté de reconnaître le rôle de ces autorités-là et de faire en sorte que l'ensemble de ces conflits-là n'arrive pas à la justice d'État. Or, en fait, c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'en reconnaissant la justice indigène, les conflits qui jusque-là en fait avaient plus tendance à être résolus justement dans cette sphère communautaire, indépendamment en fait justement de la justice d'État, vont avoir tendance à être de moins en moins en fait, à grossir finalement. Les habitants ont de plus en plus tendance à questionner en fait justement les décisions de leurs autorités. Et finalement, des conflits qui avant étaient résolus au sein de la sphère communautaire vont avoir de plus en plus tendance à grandir, à aller vers des juges. Et par exemple, de plus en plus de droits qui, du coup, de plus en plus de conflits qui vont générer des demandes auprès du tribunal constitutionnel. Alors que avant que la justice indigène ne soit reconnue, comme en fait elle n'était pas reconnue et qu'elle n'existait pratiquement pas dans les lois, il n'y avait pas de possibilité, bien évidemment, d'aller devant le tribunal constitutionnel et de demander une atteinte pour la vulnération, notamment du droit au travail, du droit à un procès juste et équitable, ce qui est maintenant possible, finalement, de manière paradoxale, en ayant reconnu la justice indigène. Donc, en fait, voilà, il y avait plus, en fait, au moment de la reconnaissance de la justice indigène, une volonté de faire en sorte en fait que l'ensemble de ces conflits-là restent au niveau communautaire et ne passent pas justement à la justice d'État. Et c'est finalement le contraire qui est en train de se passer.
Et dans votre thèse, vous soulignez que la justice étatique, en tout cas, est incompétente pour prendre en charge effectivement les cas de violence de genre, de viol, de féminicide, et qu'il y a une impunité qui règne, qui est très importante. Est-ce que la mise en place d'un système, d'une justice indigène a permis une meilleure prise en charge des cas de violence de genre ?
Pas vraiment. Alors, c'est un point de conflit, parce que justement, c'était effectivement une peur que certains politiques pouvaient avoir, que justement la justice indigène, finalement, soit encore moins favorable pour les femmes que la justice d'État. J'ai consacré une partie de ma thèse à ce point-là. En fait, la justice d'État étant particulièrement effectivement inefficace pour énormément de cas, pour les femmes, mais pas seulement. La justice indigène a aussi énormément effectivement de lacunes par rapport à la thématique des femmes, mais je dirais que chacune d'une manière différente. Mais on ne peut pas vraiment considérer que la justice indigène a amélioré la condition des femmes. Un des points, par exemple, qui est défendu, c'est de mettre en avant, notamment dans la justice indigène, pour les défenseurs de la justice indigène, le concept du chachawarmi. Le chachawarmi, c'est un concept effectivement andin, pour rejoindre l'analyse de Jordi, de dualité finalement dans le cycle de la vie et dans la manière de concevoir aussi la religion et le monde, basé sur l'homme et la femme. Donc considérant finalement l'opposition entre le masculin et le féminin, qui est une opposition un peu comme dans le yin et le yang finalement, qui se retrouverait dans beaucoup d'autres forces de la nature, le jour, la nuit, la terre, le ciel, permettrait de garantir un certain équilibre. Et du coup, finalement, dans la forme d'administrer la justice, de la même manière que dans cette vision cosmologique du monde, on retrouverait l'union de l'homme et de la femme. Et donc, il y aurait une représentation féminine dans les autorités indigènes qui permettrait de garantir une meilleure, finalement, représentation des femmes et donc une meilleure défense finalement de leur intérêt. Si on analyse un petit peu plus loin, les femmes n'ont qu'un rôle de figuratif. Et aucune femme dans les différentes communautés dans lesquelles j'ai pu travailler ne font appel à leur autorité féminine justement pour se plaindre de viol, de violence. Il n'y a pas de lien et de lien privilégié entre les femmes vers leurs autorités féminines. Les autorités féminines ne sont considérées comme un rôle secondaire finalement de remplacement de leurs époux. Donc en ça, par exemple, on ne peut pas vraiment considérer que le fait que le couple homme et femme apparaît finalement de manière visible au sein des communautés va garantir une meilleure représentation finalement des femmes et défense des intérêts des femmes au sein des communautés.
Juste une dernière petite question pour finir. Plus sur par rapport donc, à la COP 16 sur la biodiversité qui s'est tenue fin 2024 à Cali et qui a finalement reconnu aux peuples autochtones indigènes une forme d'autorité environnementale en créant un organe subsidiaire destiné à assurer la représentation de ces peuples au sein de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Et en quoi, par exemple, le concept hybride de Buen Vivir que vous nous avez présenté, Jordi, peuvent-ils être utiles pour repenser les luttes environnementales et une société écologiquement résiliente et viable? En deux minutes, si c'est possible. Merci beaucoup.
Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, la mise en application de cette alternative, elle est difficile. Cela apparaît davantage comme une stratégie politique que vraiment un agenda politique. Sachant qu'au lendemain de la promulgation de ce texte constitutionnel, le paradigme du Buen Vivir, il semble plutôt un horizon d'attente, plutôt venant bouleverser les modèles, notamment les manières de penser la société productiviste, mais ne donne pas vraiment de réponses concrètes et pratiques. Sachant que les quelques exemples que nous avons, ce sont des exemples qui sont non aboutis pour beaucoup, qui restent à l'état de source d'inspiration. Si je prends l'exemple du projet ITT Yasuni en Équateur, par exemple, ou le projet de forêt autogérée qu'il peut y avoir dans la zone amazonienne. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans un contexte de crise climatique, cette vision du Buen Vivir, cette vision biocentrique, où on change de regard, de perspective, elle séduit beaucoup les pays du Nord notamment. Et on voit que ce concept du Buen Vivir s'articule à des logiques globalisées. En 2024, par exemple, l'ONU a pris la thématique du Buen Vivir comme thématique de la Journée mondiale du travail social, par exemple. Et en ce sens, on peut se demander est-ce que le Buen Vivir peut être une source d'inspiration au-delà des frontières boliviennes ou équatoriennes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette proposition, elle se réclame de la périphérie, alors même que dès que sa création, c'est le fruit quand même d'une interaction nord-sud, d'une inspiration d'horizons différents. Mais il n'empêche que dans d'autres pays, ces propositions résonnent. Cette idée de droit de la nature a résonné en Nouvelle-Zélande, par exemple, résonne ici aussi en France. Il y a des débats actuellement pour que la Seine soit protégée avec des propres droits, les droits du fleuve parisien. Donc on voit que cette proposition amène quand même de nouveaux cadres de pensée, de nouvelles manières d'envisager notre rapport avec la nature. Maintenant, la vraie question, c'est comment concrètement appliquer cela en Bolivie ?
Merci beaucoup. Nous vous invitons par ailleurs, chers auditeurs, à aller écouter la chronique sur la COP 16 que nous avons réalisée à l'occasion de l'épisode sur la Colombie et la construction de la paix. Merci beaucoup Élise Gadea et Jordi Blanc Ansari d'avoir été au micro de Semillas Latinas. Et pour aller plus loin sur le sujet, sur la justice alternative et restaurative, n'hésitez pas à aller voir le film réalisé par Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, sur la justice restaurative en France. Merci beaucoup à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Et merci. Nous passons maintenant à une deuxième pause musicale. À tout de suite.
Coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte. la suerte, compañera de la vida. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra. Si se encuentra, caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me la estás haciendo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, si esta muchacha me quiere. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida.
C'était Roja Verde de Atajo. Mais je crois que toutes ces discussions ont inspiré Astrée et Paloma.
Et oui, Paloma, depuis qu'on a parlé de l'histoire politique de la Bolivie tout à l'heure, j'ai vu passer plein de vidéos sur les cholitas. Ce sont ces femmes andines, tu sais, qui portent leurs longs cheveux noirs dans de longues tresses, qui mettent des habits traditionnels colorés, souvent c'est des grandes jupes et des chapeaux melons. On voit passer plein de vidéos d'elles qui les mettent en scène en train de pratiquer des sports bien différents. Un coup, c'est la cholita qui fait du catch, ou de l'alpinisme et même du skateboard. Bon, c'est un peu cliché, mais t'as déjà entendu ou vu ça, non?
Have you heard of the fierce female wrestlers, the flying cholitas?
De las cholitas luchadoras.
Elles sont appelées les lutteuses cholitas. Quechua ou Aymara, ces combattantes mènent une lutte quotidienne.
Mais oui, je vois très bien. Elles ont été hyper médiatisées, notamment avec un documentaire qui les montrait en train de gravir le sommet de la Aconcagua en Argentine. C'est vrai que c'est impressionnant. Après, tu sais, on parle de cholitas comme de groupe sportif, mais en réalité, cholitas, ça désigne simplement les femmes andines, les cholas, qui ont migré vers la ville. C'est pas vraiment un club de sport.
Et oui, ces femmes ont longtemps été stigmatisées pour leurs origines andines. Elles ont été exclues de la sphère publique au point qu'elles n'étaient même pas autorisées à se rendre au cinéma ou à l'université. Mais avec l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales, dont je te parlais tout à l'heure, elle ainsi que l'ensemble des peuples indigènes ont acquis de plus en plus de droits politiques et sociaux. D'ailleurs, en creusant un peu, j'ai aussi vu qu'au-delà de la médiatisation de leurs exploits sportifs, elles étaient aussi impliquées dans plein de luttes sociales et environnementales.
Exactement. Et en fait, en voyant tout ce qu'elles font, je me suis demandé si c'était pas des figures écoféministes.
Oula, alors l'écoféministe, j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas forcément à quoi ça correspond.
En gros, l'écoféminisme, c'est une pensée théorique, mais aussi un mouvement militant qui établit le lien entre l'oppression des femmes et l'exploitation de la nature. C'est né en France dans les années 70, en pleine montée des mouvements écologistes et féministes, et ça a été théorisé par Françoise Daubonne. Son idée principale, c'était que la révolution féministe pouvait être le moyen de sauver l'environnement. Et puis, ça a aussi été mis en avant par des figures comme Vandana Shiva en Inde, qui a mis en avant le fait que les femmes indigènes sont les premières à défendre la terre contre l'exploitation. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Écoféministe » en 1993 avec la sociologue allemande Maria Mies. Et ça a eu une grande influence dans le monde anglophone. Ça a participé à l'influence de l'écoféminisme aux États-Unis. En fait, il y a plusieurs écoféminismes, mais les grandes idées théoriques de ce courant, c'est que l'oppression des femmes et la destruction de l'environnement ont les mêmes racines, que les femmes sont les premières victimes des crises écologiques ou encore que les femmes détiennent les savoirs pour protéger l'agriculture.
Ok, je vois, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, les nombreux reportages sur les cholitas mettent en avant une véritable symbolique derrière leurs pratiques sportives. Il y a par exemple les cholitas luchadoras qui pratiquent la lucha libre, qui mettent en avant l'aspect féministe de leur lutte contre la société machiste. Mais il y a aussi les cholitas alpinistes qui sont montrées comme des défenseuses de l'environnement, qui sensibilisent au changement climatique et à l'impact sur leurs pratiques.
Oui, mais je me dis que ça va même plus loin que ça et que le symbole. C'est ce que je te disais avant. La pratique sportive des Cholitas, elle est très mise en avant, mais elles sont présentes sur plein d'autres luttes environnementales. Il y a des réseaux qui se sont créés, comme le réseau des femmes pour la défense de l'eau ou le réseau des femmes en lutte contre l'exploitation minière. Elles s'organisent pour protéger leur territoire, leurs ressources et leur mode de vie. Et en plus de leur lutte, les femmes indigènes jouent un rôle clé dans l'agriculture traditionnelle. Elles préservent les semences et elles utilisent des méthodes agricoles adaptées aux écosystèmes locaux.
Oui, en fait, c'est moins dans la théorie écoféministe occidentale, mais plus dans la pratique avec des combats concrets, c'est bien ça ?
Exactement. De façon générale, l'écoféminisme en Amérique latine est très ancré dans les luttes locales. Il est pratique, militant et directement lié au combat des femmes indigènes, paysannes et ouvrières. Il se caractérise par sa critique du colonialisme et du capitalisme extractiviste, et il dénonce le fait que les pays du Sud sont utilisés comme des réservoirs de ressources naturelles. Et les femmes sont généralement en première ligne des combats écologiques en Amérique latine. Elles résistent à des projets miniers et agro-industriels qui détruisent les terres et qui empoisonnent les sources d'eau. Et justement, par exemple, en Bolivie, en 2000, il y a une présence très forte des femmes indigènes lors de la révolte populaire à Cochabamba contre la privatisation de l'eau.
Ah oui, je vois, donc les Cholitas sont encore plus badass que ce que je pensais.
Et merci beaucoup Astrée et Paloma pour cette chronique badass très intéressante. Et pour conclure en beauté cet épisode, Anaëlle va vous parler d'un événement bien particulier et révélateur de la vitalité culturelle impressionnante de la Bolivie, qui démarre dans exactement une semaine et que vous avez tous et toutes en tête, sans forcément l'associer à ce pays. Je veux bien sûr parler du carnaval.
Et oui, du 22 février au 4 mars 2025 va se dérouler le carnaval d'Oruro, une ville de l'ouest de la Bolivie, située entre les deux capitales du pays, La Paz et Sucre, dans la Puna, le haut plateau andin, soit à 3700 mètres d'altitude. Et même s'il est peut-être moins connu ici en France que ses homologues brésiliens, ce carnaval a une telle portée culturelle, historique et artistique que l'UNESCO l'a inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2008. Si cet événement correspond aux célébrations religieuses en l'honneur de la Vierge du Socavón, la sainte patronne locale, il a pourtant acquis, au cours des 50 dernières années, une vivacité sans précédent et une résonance de très grande envergure. En témoigne le point culminant des festivités, à savoir la procession finale, au cours de laquelle c'est désormais un cortège composé de 30 000 danseurs et danseuses et de 10 000 musiciens et musiciennes, répartis en une cinquantaine de confréries, qui parcourt plusieurs kilomètres en direction de l'église de la Vierge du Socavón. En fait, ces célébrations locales à l'origine ont acquis une portée nationale dans la mesure où des traditions de toutes les régions du pays convergent à Oruro à travers un large éventail d'arts populaires. Je pense notamment aux costumes et aux masques plus expressifs et colorés les uns que les autres, mais aussi aux répertoires musicaux et aux diverses chorégraphies ou encore aux décors des processions. Vous l'aurez compris, en Bolivie, chaque territoire possède ses rites culturels et religieux qui ponctuent la vie communautaire, rurale comme urbaine, et contribuent à la régénération du lien social par l'union de toutes et tous autour de pratiques et de valeurs aux origines anciennes. Je vous propose donc qu'on rembobine et pour ce faire, je me base sur l'excellent article de Paz Núñez Regueiro, conservatrice au musée du Quai Branly, et Varinia Oro Rodriguez, anthropologue, parue dans la Revue des musées de France en 2012. Et pour bien comprendre le contexte dans lequel a émergé le carnaval d'Oruro, il faut avoir à l'esprit trois points. D'abord, l'importance de la mine, et ce dès l'époque préhispanique, dans les représentations identitaires et les croyances religieuses locales. Au milieu du XVe siècle, période d'expansion territoriale de la civilisation Inca et de prise de contrôle de la région d'Oruro, les communautés autochtones sont des groupes Ourou et des groupes Aymara. Et lorsque ces communautés sont incorporées à l'État Inca, le Tahuantinsuyu, les nouvelles autorités donnent une grande impulsion à l'exploitation minière dans la région. Puis, après la conquête espagnole et la chute des Incas, l'existence des mines d'argent suscite un intérêt certain chez les Européens avides de richesses et la ville d'Oruro est fondée en 1606. L'administration coloniale reprend à son compte un principe au cœur du système de gouvernance Inca, le travail temporaire obligatoire imposé aux populations gouvernées. Rien d'étonnant dès lors à ce que les pratiques culturelles et rituelles des habitants d'Oruro soient largement tributaires du monde minier environnant. Le deuxième point super important, c'est la dimension syncrétique, c'est-à-dire aux influences disparates et entremêlées, de la culture bolivienne en général. Les différentes danses et processions qui se déploient durant le carnaval sont vraiment le reflet de racines amérindiennes, hispano-créoles, mais aussi africaines, de la société actuelle. À l'époque coloniale, la religion catholique imposée par les colons se voit confrontée aux croyances aymara et un profond syncrétisme religieux se développe. La vision judéo-chrétienne du cosmos se superpose au système de pensée et de croyances indigènes. Un exemple majeur de cette juxtaposition se retrouve dans les figures invoquées dans les costumes et processions au cours du carnaval.
Oh, Santissima Virgen del Socavón, que el poder de tus virtudes devaste en el mal de nuestro pueblo. Rendidos venimos ante tus pies para honrarte pleitesía y devoción. Y pedir tu bendición para quienes humildes bailamos para ti.
Au XVIIe siècle, les mineurs des villes d'Oruro et de Potosí reconnaissent la Vierge du Socavón comme leur protectrice, alors même que d'autres croyances perdurent, notamment le culte de la Pachamama, ou terre-mère, et aussi les esprits des défunts, esprits souterrains qui seraient les garants de la fertilité des sols, ou encore Supai, devenu le Tio de la Mina, divinité tutélaire de la mine et bienfaiteur des mineurs. Et ce Tio de la Mina, vénéré par les populations locales car il peut les combler de prospérité, mais aussi redouté et apaisé par des offrandes et des prières, est lui-même associé au diable par les Espagnols. C'est pourquoi encore aujourd'hui, la figure du diable occupe une place centrale et n'est pas du tout une figure absolument négative à Oruro. Comme toutes les entités sacrées des cultures andines, elle est ambivalente. Une semaine avant le carnaval, la population promène en procession différentes images de la Vierge à la lumière des chandelles. Les jours qui suivent, on prépare à manger, on offre des tables rituelles à la Pachamama, on pare les images de la Vierge et on procède à l'encensement des costumes de diable. Enfin, le samedi de carnaval, l'aube marque le départ du long défilé dans toute la ville qui se termine par l'entrée à genoux des danseurs dans l'église de la Vierge du Socavón où les diables viennent rendre hommage à la Vierge ainsi qu'à Supai. On comprend mieux dès lors les processions de la Diablada, qui représentent la lutte du bien et du mal, avec l'archange Saint-Michel en tête de cortège et Lucifer escorté par des centaines de démons et de diablesses. Cette danse des diables figure en fait symboliquement la sortie des morts, ces habitants du monde d'en bas, qui, à la fin des festivités du carnaval, ont achevé un cycle débuté à la Toussaint et ont ainsi aidé à faire germer les produits de la terre, les plantes, mais aussi le minerai. Le dernier point fondamental pour comprendre la forme dansée et carnavalesque de cette manifestation religieuse, c'est que les danses et les parades occupaient déjà, dans des temps anciens, préhispaniques, une place considérable dans les rituels, notamment au cours de la période Inca. À l'époque coloniale, la couronne espagnole exporte en Amérique la tradition des autos sacramentales, des pièces de théâtre basées sur des allégories religieuses, qui servent à la conversion et à l'éducation des masses au christianisme. La conception de la danse comme expression religieuse connaît un grand développement. Les autorités ecclésiastiques et civiles favorisent ces processions afin d'acculturer les communautés autochtones tout en se basant sur des formes de religiosité ancestrale. Organisées en confréries, différentes composantes ethniques de la société coloniale exécutent ou assistent à des défilés théâtralisés haut en couleur, tradition qui perdure au fil des changements de régime et, depuis le milieu du XXe siècle, évolue nettement, en intégrant notamment des danseuses à partir des années 1970. Et si l'influence de la statue religieuse coloniale est encore perceptible dans les costumes et les masques, leur exubérance s'accroît à chaque carnaval et les créateurs et créatrices, à qui les confréries passent commande, rivalisent d'originalité. Les matériaux qu'on utilise actuellement permettent la réalisation de masques légers, de plus grandes dimensions, mille fois plus complexes qu'avant. Et par exemple, les masques de diable, d'aspect humain et naturaliste au début du XXe siècle, évoluent depuis 50 ans vers des figurations de plus en plus grotesques, avec des traits de plus en plus maléfiques, allant parfois jusqu'à l'incorporation de systèmes d'éclairage ou de fumée colorée. En conclusion, on mesure à quel point le carnaval d'Oruro est le lieu d'expression culturelle populaire foisonnante, avec des créations qui attirent de plus en plus l'attention d'institutions de conservation, comme par exemple le musée du Quai Branly Jacques Chirac, où vous pourrez contempler un ensemble exceptionnel de costumes. Ça mérite d'être souligné parce que ces expressions artistiques ont longtemps été méprisées par les collectionneurs, collectionneuses et les lieux de préservation de biens culturels en tant que production hybride, imprégnée d'une modernité qui les dépossédait d'une pseudo-authenticité originelle dans une vision fixiste des peuples autochtones. Mais surtout, ces costumes et ces masques sont conservés au Museo Nacional de Etnografía y Folklore de La Paz, institution conçue comme un lieu de libre expression des diversités culturelles de Bolivie, dans l'objectif de rassembler et documenter les savoirs locaux et leur expression matérielle et immatérielle.
Merci beaucoup Anaëlle pour cette belle chronique. Et d'ailleurs, vous pourrez voir dans le cortège du Carnaval de Paris une de ces fameuses diabladas du 28 février au 2 mars. L'association America Andina, une compagnie de danse folklorique d'Amérique du Sud, qui propose tout un ensemble de cours à Saint-Denis, fera cette année encore partie du cortège avec un bloc entièrement dédié à la Bolivie.
Semillas Latinas, une émission Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Et voilà, l'émission touche déjà à sa fin. Et oui, et merci beaucoup à toute l'équipe pour ce travail radiophonique. Merci à nos invités, Élise Gadea et Jordi Blanc-Ansari. Nous nous retrouvons dans un mois et en attendant, retrouvez-nous sur Instagram Semillas Latinas Radio et sur Spotify pour nous écouter et réécouter. C'était Pauline à la présentation. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Semillas Latinas. À bientôt.